le Tarn. Cette magnifique rivière prend sa source sur le mont Lozère au-dessus de la commune du pont de Montvert et va se jeter 300 km plus loin dans la Garonne. Magnifique rivière, oui, mais parfois surprenante, pouvant se déchaîner au rythme des saisons, de la neige fondante aux pluies diluviennes et autres épisodes cévenols. Pour cette série d'émissions, on vous propose de vivre ou revivre ces crues depuis le début du XXe siècle entre les communes de Baie-d'Ouès et des Vignes, en passant par Espagnac et Saint-Élimy. Grâce aux témoignages des habitants, des élus ou des commerçants. Mémoire des crues du Tarn, une série de 3 épisodes réalisés par Radio Bartas pour le syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont. Deuxième épisode, savoir réagir pendant l'inondation.
Mon prénom c'est Cyril, voilà, je suis directeur de la base à Colosier, Rovigny. On a été tous surpris.
En 2020, le Tarn il est rentré dans mon local qui était tel quel le matin quand je suis arrivé. Là. Ça c'était la hauteur du Tarn. Plus haut que moi. Là vous avez les hauteurs de crue, là vous les avez vues contre le mur central. Vous voyez les repères là-bas sur le mur central. Je crois que c'est monté à 6,80 m ici. C'est catastrophal. Ce qui est le plus surprenant en tant que personne connaissant les gorges, c'est le bruit que ça fait. C'est le plus surprenant ça. Pas de panique, mais il fallait faire vite. Voilà, pour évacuer tout le matériel, les bateaux, voilà. Au départ, on était deux, puis après on s'est vite retrouvé vers 10h du matin, on était une grosse dizaine, quoi. Pas la fatalité, on a mis des choses en place, notamment une communication entre nous, entre nous, les campings, pour que ça se reproduise pas, quoi. Mais après, il y a des choses que tu peux pas maîtriser, quoi. Le patron, il a une application qui s'appelle Vigicru, qu'on retrouve sur Internet, et puis on a des infos sur la montée des eaux.
La première histoire d'inondation, je peux même remonter à mon père, si vous voulez. Moi, je suis Jeannot Cibon, je suis au Moulin de la Madeleine. On est la plus ancienne location de canoë et kayak. On fait ça depuis juillet 1973. Et des crues, on en a vu passer pas mal. Et donc, même avant, puisque mon père, on avait racheté le moulin à la famille en 1965. Et quand mon père a acheté le moulin, et bien à l'automne, on s'est ramassé une crue où on avait un arbre directement sur le toit du moulin. Donc mon père ce jour-là a dit pour un premier achat c'est pas terrible. Et voilà quoi, les crues, le moulin c'est en permanence, le moulin il faut bien qu'il soit au bord de l'eau. Donc on a des crues, c'est habituel, on y est tout le temps, il a tout le temps les pieds dans l'eau. Et les crues cévenol ou que ce soit, les anciens disaient il peut y avoir une crue tous les mois et qu'elle soit plus ou moins importante, c'est ce qui peut arriver. Une des plus grosses, bon, j'étais déjà un peu moins enfant mais là on y habitait encore, c'était en 82, la crue où là à 5h du matin on a été obligé d'évacuer puisqu'on avait de l'eau dans la deuxième maison.
Une grosse dizaine de mètres.
Ouais. Mais l'avantage que les anciens avaient tout prévu, c'est que même dans la deuxième maison, on a une porte de sortie qui va directement sous la route. Donc on a pu évacuer et partir directement dans la route. Sinon, le moulin, moi, il a toujours été en perpétuelle rénovation, puisque le moulin, j'arrive à remonter avec les archives à une vente du moulin en 1279. Donc ça fait... très ancien. On était resté longtemps bloqué à 1600 et là j'ai trouvé un jour ce papier, c'était énorme. Il change, c'est-à-dire que moi au moulin, comme on a une petite centrale électrique, donc dès que l'eau commence à monter, je suis obligé d'arrêter ma centrale vu qu'il n'y a plus de chute. C'est exactement le même principe que l'ancien moulin. Donc on travaille avec beaucoup d'eau, mais pas beaucoup de chute, c'est des toutes petites digues. Et donc dès que il y a un peu moins de chute, puisque l'eau monte en aval, après la centrale ne peut plus marcher. Donc on est habitué à son ronronnement de la centrale, qui est très doux, mais d'un coup il nous manque quelque chose parce qu'il n'y a plus le bruit de la centrale. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que la digue fait vraiment beaucoup de bruit. Et là, on entend beaucoup le bruit de la digue, et puis d'un coup, on n'entend plus le bruit de la digue. Donc là, on dit, ça y est, l'eau commence à bien monter, et puis tant que l'eau, après, ça devient très très calme, et puis d'un coup, on entend floc-floc, et quand on entend floc-floc, c'est que l'eau est pas loin de la maison, et là, on commence vraiment à se faire du souci. Ouais, c'est un sentiment c'est impressionnant. Une crue, c'est très impressionnant. Tant qu'on ne l'a pas vécu, et qu'on n'y est pas dedans... C'est énorme. C'est le calme qui fait peur après. C'est quand il n'y a plus de bruit que c'est pas bon. C'est pour ça que le moulin, quand on le regarde de l'autre côté, les anciens avaient tout prévu, quand on arrive de vers Saint-Edémy, le moulin, il est construit comme un bateau, comme un paquebot. Il est construit tout en rond de l'autre côté. C'est pour que quand l'eau monte, ça force un petit peu moins pour tous les arbres qui arrivent directement. Et ça monte de moyenne à 1 mètre à l'heure. Donc ça va quand même assez vite. Et les heures passent très vite. On travaillait beaucoup avec l'EDF où il y avait déjà un niveau d'eau à Montbrun. C'était l'unisom du pont de Montbrun. Et ils nous disaient exactement les mêmes choses que maintenant avec Internet. On appelait et ils nous disaient le niveau d'eau qu'il y avait à Montbrun, sachant que par rapport à ici, c'est la facilité. On sait très bien depuis toujours qu'il faut 3 heures à peu près de Montbrun pour que l'eau arrive ici. Mais c'était 3 heures qui passent très vite. Parce qu'il faut se dépêcher. Non, les gens savent. Moi, de ce côté-là, on est tous, on se coordonne et on sait très bien que dès qu'il y a des trucs Cévenol, des épisodes Cévenol, on sait très bien qu'on se méfie, on lève la tête. Et dès qu'on voit le vent du midi, on commence à se méfier. Il n'y a pas de souci. On est entre professionnels et voilà, exactement. L'avantage qu'il y a eu, c'est que j'ai toujours travaillé, même autonome, puisque avec la centrale électrique, on est directement, moi, à pointer avec l'EDF. Et les niveaux d'eau avec l'EDF, on y était directement avec, quoi. Donc c'est un très bon guide. Maintenant, les préfectures alertent, mais souvent, on est déjà, on sait déjà, nous, par rapport au niveau d'eau qu'il y a sur Vigicru, on sait déjà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on se sert le plus, c'est de Vigicru. En 82, vous voyez, l'eau, elle était là, ici. Elle n'était pas loin. J'avais tout le moulin qui était sous l'eau. Si on remonte aux archives, moi, j'ai des... Avec la crue de 1900, il y a une ancienne de la famille des Mouginous, ici, qui était déjà au moulin, qui me disait que sa grand-mère parlait toujours qu'avec la crue de 1900, tellement que l'eau était haute, ça avait ouvert une fenêtre de la chambre du moulin et il y avait un cochon qui était rentré dedans avec la crue. Et à chaque fois, c'est l'anecdote que tout le monde s'amuse à voir. Quoi. Mais des crues, il y en a eu tellement que, bon, les plus grosses sont à l'automne, à l'équinoxe, avec les puits Cévenol, et puis bon, il y en a encore au printemps. Nous, on ramasse toute l'eau du Mont-Lozère, des Cévennes, mais surtout la grosse partie de l'Aigoual, qu'on ne se méfiait pas, qu'on avait autant avant. Avec toutes les études qui ont été faites dernièrement, là, on s'est aperçu qu'il y avait un sacré bassin versant de l'Aigoual qui venait jusqu'ici. Et donc, ça y fait autant, quoi. C'est pour ça, quand il fait du 150 mm au mètre carré, c'est pour ça qu'après, ça monte à 1 mètre à l'heure. Il faut attendre que l'eau arrive, mais que ça monte, c'est énorme. Moi, les grosses crues qu'il y a tous les hivers, à partir de septembre, on commence déjà à enlever les 3/4 du matériel. Moi, au moulin, je ne peux absolument rien laisser l'hiver. Une crue normale, l'eau est déjà entre mes deux maisons, donc il n'est pas question de laisser rien du tout. Et c'est pour ça que celle-là, au mois de juin, normalement, on commence à avoir amené énormément de matériel pour pouvoir préparer pour la saison. Et donc là, ça nous a surpris. Et heureusement que j'avais un petit peu de personnel parce qu'il fallait tout monter en courant, mais c'était énorme. On a tout monté là sur la route. Avec les bateliers, avec tout le monde, on est toujours tous en train de... C'est normal, ça. Ouais. Non, encore, ça va. On est des pays où on est très solidaires. Ouais.
Alors moi, c'est Clément Persegol. Je suis un des deux gérants des bateliers des Gorges du Tarn à la Malène depuis 6 ans maintenant. Mes familles, côté maternel et paternel, sont originaires du village depuis des décennies, voire des siècles. Et depuis que je suis tout petit, je suis ici. Et maintenant, j'y travaille à l'année. Premier souvenir de crue, je dirais que c'est novembre 2011. Mes parents habitaient à la Canongue, donc on était à la Canongue. On regardait Vigicru, ça montait. Et on avait une ruche avec des abeilles qui était au bord de l'eau. Et quand on a vu la courbe, on a dit bon, mais il faut redescendre. Donc c'était minuit, on était à la Canongue, on part ici. Et quand on arrive, il restait que la ruche sur un petit îlot. Et il y avait le Tarn tout autour. Et donc je me souviens que mon père allait la chercher, moi j'éclairais pour voir s'il n'y avait pas des gros arbres qui arrivaient, que ça l'emporte pas. C'était assez épique. Et après on avait aidé le moulin à la Malène à tout remonter au premier étage parce que ça commençait à rentrer. Déjà la partie basse du moulin était inondée et ils avaient peur que ça rentre dans le premier étage d'habitation, donc on remontait tout au deuxième. Et je me souviens dans le village d'entendre les troncs d'arbres qui se fracassaient sur la pile du pont. On avait l'impression qu'on tirait des boulets de canon dans le village. C'était très très impressionnant. C'est peut-être pas très sain ce que je vais dire, mais c'est cool. On se sent petit par rapport à la puissance de l'eau et que c'est super impressionnant. Et alors oui, c'est dévastateur, encore que c'est habituel, c'est pas une crue très très importante, mais on se sent vraiment petit, la nature a une force incroyable.
Disons qu'après, le problème qu'il y a, c'est que quand on arrive à ces niveaux-là d'eau et la force qu'il y a, tant que ça passe sous le tablier, tout va très bien. Et dès que ça commence à poser sur le tablier du pont, c'est là que les ponts ne tiennent pas longtemps. Tandis que tant que ça continue à passer dessous, même si les piles elles arrivent à tenir, mais c'est le tablier là-haut. Et là, ça fait barrage et tout s'effondre. C'est, la force de l'eau, c'est énorme. Vous voyez, rien que moi ici au moulin, quand un arbre, il y a beaucoup de peupliers qui sont complètement déracinés, quand ils arrivent au bout de ma digue, on entend craquer ça, ça fait rouleau, et quand ça vient passer devant le moulin, c'est plus que des branches. Il faut voir la force de l'eau, c'est énorme. C'est une machine à laver, là, c'est énorme. Moi, avec la digue, et après, ça remue énormément de gravier. C'est pour ça qu'on appelle ça le lit changeant. Le lit changeant, c'est-à-dire que y a des rapides, une année, ils vont être à droite, l'autre année, ils vont être à gauche, la rivière est jamais la même. C'est un éternel recommencement. J'ai des arrivées où j'ai eu des années où j'avais plus de plage. Et pendant 10 ans, j'ai eu des plages énormes. Et avec une crue, j'ai eu un moment à la place de ma plage, mais j'avais 2, 3, 4, 5 mètres d'eau. C'était un gour. Un arbre qui se déracine, un osier et tout, ça peut changer la rivière sur 500 mètres. C'est énorme. Le gravier, il bouge très vite après. Il faut voir la force de l'eau, c'est énorme.
Après, régulièrement, on est sensible même à des orages d'été. Des fois, on est obligé d'évacuer le matériel dans la nuit. Et du coup, avec la casquette de gérant, c'est un peu moi qui prends la responsabilité de sauver le matériel. Enfin, ou en tout cas, d'anticiper le risque. Et on s'était fait, septembre 2001, la grosse pluie, c'est le 12 juin. Et 10 jours avant, on prend un gros orage qui, le temps monte d'un mètre. Et donc déjà, là, à 3h du matin, on évacue tout le matériel. Donc on était un peu sur le qui-vive et on commençait à entendre parler d'articles comme quoi de gros orages arrivaient. Donc le 11 juin au soir, on avait déjà sorti tout le matériel, on était à l'abri pour une crue de 5-6 mètres, on risquait rien du tout. Et ben là, toute la nuit, j'avais mis quelques petites alarmes pour checker quand même, parce que ça sentait pas bon. Et dès 5h du matin, on commence à tout réévacuer sur un deuxième niveau d'alerte parce que ça montait très très fort. Et finalement, à 8h30 du matin, nous, alors que le temps n'avait pas bougé d'un centimètre, qu'il pouvait arriver une crue de 12 mètres, on n'avait pas de soucis. On sera à la Malène, et on parle souvent par rapport à l'étiage au niveau d'été. Et là, juin 2020, après c'est toujours pareil, parce que nous, la première borne en amont, c'est Montbrun. Sauf que Montbrun, d'ici, c'est 35 km, et qu'entre Montbrun et ici, il y a des sources qui peuvent faire varier la côte énormément. Et notamment, juin 2020, on prend quasiment 90 mm ici, et la côte est faussée. Il y a quasiment un mètre d'eau en plus que ce qu'on s'attendait en voyant le niveau à Montbrun. Mais nous, on était tranquilles. Après, une fois que c'était fini pour nous, c'était plutôt d'aller aider les copains et d'appeler tous ceux qu'on connaît, parce qu'il y en a à 9h du matin, ils apprenaient que l'eau montait. Donc après, voilà, c'est plus de la solidarité. Dans ce moment-là, il y a pas mal d'entraide. Surtout, je me souviens, aux vignes, il y a Utopia, c'était des nouveaux gérants, ils n'avaient jamais connu une crue, ça fait un mois qu'ils étaient là. Ils avaient tous leurs emplacements au bord de l'eau. Et on était allé les prévenir, mais eux, ils ont eu quelques dégâts, par exemple. Ils sont plus là. Ça a changé de gérant, mais ça change chaque année ou presque.
Clément nous explique comment les bateliers parlent des crues aux touristes.
Après, chaque batelier a son commentaire. Moi, c'est la première chose que je montre, notamment parce qu'on part juste à côté du pont et c'est très visuel. On leur explique que le pont, il peut être entièrement englouti. Aujourd'hui, le Tarn, il passe sur une seule des deux arches, mais il faut s'imaginer que lui, il peut être totalement englouti. Le petit guichet où ils ont acheté leurs billets a déjà été totalement submergé, alors qu'on voit même pas la rivière depuis ce guichet. Et après, tout au long de la balade, on a des troncs d'arbres, on peut avoir des embâcles dans les arbres, donc c'est assez visuel. Et puis c'est un sujet qui plaît parce que c'est impressionnant. Alors aujourd'hui, on a une petite rivière tranquille, on touche des galets, il manque un peu de fond et ça peut être dévastateur. Et puis c'est aussi souvent un sujet d'actualité, donc ils en ont entendu parler à la télé, on a entendu parler d'épisodes Cévenol, tout ça. Ça intéresse. Ce qui semblerait des fois un peu, c'est qu'au printemps, il y a des orages plus pluvieux alors qu'on pensait que c'était surtout à l'automne, mais c'est régulièrement, on en a au printemps maintenant. Mais sinon, non, pas une accentuation des crues. Et après, il y a le phénomène aussi, quand on parle des grosses crues du début du siècle, on a le mont Aigoual, on a le mont Lozère qui sont totalement déboisés, un écoulement beaucoup plus rapide des pluies et un pic de crue plus important. On aurait le même épisode Cévenol qu'en 1875, peut-être que la crue, elle aurait 1 mètre, 2 mètres de moins que ce qu'on a aujourd'hui. Après, celui qui sait le calculer, on serait preneur de l'info, mais on n'est pas très inquiet pour l'avenir. Non. Et au niveau du climat, ce qu'on arrive peut-être à percevoir, c'est qu'à la fin de l'année, il pleut à peu près la même chose, mais c'est moins bien réparti sur l'année. C'est plus intense par moment et plus de périodes sans pluie. Ou moins assimilable pour la nature, plus de stress hydrique, plus de... C'est pas fun hein, ce qui est censé arriver, mais on n'est pas très inquiet non plus. Pendant les crues, je pense que c'est un bon stress pour la nature, puisqu'on retrouve des poissons, des animaux, des castors qui se retrouvent au milieu du terrain de pétanque à la Malène, au milieu de la crue. Ou moi, j'ai du matériel au bord de l'eau, je suis allé enlever des tôles métalliques. Quand le tarn était en train de monter, il restait 1 mètre, il y avait des serpents partout. Alors que d'habitude, il n'y en a pas, mais on voyait que tout ce qui vit dans les 3-4 mètres du tarn ben, fuyait, rentrait dans les terres. Donc on sent que pour eux, c'est stressant aussi. Après chaque crue, la population par exemple de castors disparaît pas pendant des années quoi. Donc le milieu a l'air assez résilient par rapport à ça. La végétation aussi c'est extraordinaire. Des fois on a des endroits qui sont décapés, on revient à du galet et 3 ans après la ripisylve, on a de nouveau une petite forêt, de l'herbe. Au milieu des plantations, on avait des truites, des goujons, des hérons. Il y a le héron aussi qui venait les gober au milieu de tout ça. Ça vit bien. Ben nous, dès qu'on est un peu en situation de crise pour les bateaux, c'est les bulletins météo qu'on regarde très fréquemment. On regarde les radars de pluie pour savoir si c'est sur notre bassin versant ou pas, parce que le Cévennes c'est quand même grand. On parle de l'Hérault, des Gardons, de l'Ardèche et de nous. Et ensuite, les bornes de niveau. Et on en a 3 à surveiller, puisqu'on a quand même le bassin du Tarnon, on a la Mimente et on a le Tarn. Donc tous les bateliers ont Vigicru avec les 4 stations, Montbrun et les 3 en amont de chaque cours d'eau. Et si je me rappelle, c'est septembre 2020, donc la même année que la crue de juin, où il y a un énorme épisode, je crois que c'est vers le 20 septembre, et là-haut c'est diluvien, on voit que les radars c'est noir, 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 et c'est vraiment à 5-6 km de la ligne de crête de bassin versant. Et là c'est l'Hérault qui est dévasté avec des records de précipitations sur Valrogue, où ils ont battu leur record de la station, et on se dit à 20 km près, c'est de notre côté, mais ce jour-là c'était pas pour nous, et c'est l'Hérault qui est dévasté. Et après, on a des petites surprises. Cette année, on voit qu'il y a un gros orage sur Hispaniac. Ça dure 1h30, 2h. Je crois qu'il est tombé 80 mm d'eau. À Montbrun, 1h, 2h, 3h après, ça n'a toujours pas réagi. Donc on décide de ne pas bouger le matériel. Et je me souviens, j'ai rentré après 20 minutes de route. Juste avant de me coucher, je recheck un dernier coup, j'y cru. Et là, d'un coup, hop, 1 mètre qui est arrivé à Montbrun. Donc vite, on rappelle tout le monde et on revient sortir le matériel. Ça fait partie du jeu.
T'as combien de temps entre Montbrun et ici ? À peu près, tu comptes...
Ça dépend. Parce que quand il n'y a pas d'eau en ce moment, le temps que toutes les gravières se rechargent, tout ça, c'est quand même plus long. Des fois, c'est 6-10 heures. Et par contre, quand vraiment le tarn est en tension, même sur des grosses crues, des fois, c'est 3 heures. Okay. Mais ça aussi, c'est empirique, c'est nos souvenirs qu'on a et on se fait un peu nos scénarios tout seul, mais on n'a pas d'abac, on n'a pas de... On compte aussi sur tous les anciens qui nous racontent leur histoire des années 2000, 80. La plupart des anciens bateliers sont marqués de 82 ici à la Malène, où notre pizzeria était totalement inondée avec une cuve à gaz qui flottait. C'est la dernière crue vraiment qui a marqué les esprits. Par rapport aux crues des histoires de 82, mon arrière-grand-mère tenait une petite épicerie dans le village et elle se souvient que 1875, l'eau rentrait dans la cour de l'épicerie. Et aujourd'hui, là, ça fait une côte qui est immense. Ça fait 2-3 mètres d'eau par-dessus le pont. On a du mal à s'imaginer. Ça fait sur toutes les habitations basses, ça fait le premier étage qui est quasiment immergé. Après, tout le monde a des anecdotes, mais personne n'a été trop traumatisé par ça. En général, quand il y a une crue, c'est le moulin qui est le plus sensible, puisqu'il a la nécessité d'avoir les pieds dans l'eau. Donc c'est eux les premiers qu'on va aller voir pour aller les aider, pour savoir s'ils ont un coup de main. Mais sinon, le reste du village est quand même en hauteur. On est moins sensible que Saint-Enimy, par exemple. Sur des crues décennales, même à part le moulin, personne ne prend l'eau.
C'était le deuxième épisode du flot des mémoires, les crues des gorges du Tarn de Bédouès Cocurès aux vignes. Savoir réagir pendant l'inondation. Cette série de podcasts fait partie des actions de sensibilisation du Papy Tarn Amont 2024-2029 et a été réalisée grâce au financement du Fonds de prévention pour les risques naturels majeurs.